cette copier-coller était beaucoup plus ouverte il y a 10 ans. Ça se faisait beaucoup plus ouvertement et beaucoup plus massivement et sans faire trop attention. On prenait les textes envoyés par email par les lobbyistes et on les déposait en tant qu'en banque. Après, il y a eu plusieurs scandales médiatiques grâce à votre travail, celui de votre collègue. Il y a eu aussi des journalistes des Sunday Times qui, il y a 10 ans, ils ont poussé un peu plus loin les limites et en fait, ils se sont déguisés en lobbyistes.
Comme sonner des eurodéputés.
Et ils ont proposé aux eurodéputés de donner un amendement. Ils ont dit, si vous les déposez, en échange, on va vous donner un contrat de consultance de 100 000 euros par an. Et il y en a 3 qui ont accepté. Ils sont allés en prison quelques années. Et après ça, on a eu la première code de conduite pour les députés, parce qu'avant dans le Parlement, il n'y avait pas de code de conduite. Alors ça a dévoilé le problème de l'écriture des amendements, mais aussi le problème des secondes emplois. Un tiers des députés aujourd'hui continuent à avoir des secondes emplois. Après cette code de conduite, ils sont censés ne pas avoir des boulots dans les lobbies. Mais si vous voulez, on se demande quel autre type de travail pourrait faire un député européen qui est censé travailler quand même 50-60 heures par semaine pour notre entreprise. On a par exemple Kiefer Hofstede qui est dans les conseils consultatifs de Sofina. Bon, il y a plusieurs dossiers qui touchent les entreprises dont Sofina est propriétaire, comme par exemple Uber. Il a eu une directive sur le travail des plateformes et son groupe politique avait des positions qui étaient plutôt proches à celle d'Uber. Alors, je dirais, dans les dimensions que le phénomène prend, c'est un problème, c'est copier-coller, et aussi c'est le premier niveau des singes. Alors, on est député, on n'a pas beaucoup de personnel, on a un assistant spécialisé, après on a un conseiller de notre groupe politique spécialisé. 3 personnes, y compris nous-mêmes, ça fait pas beaucoup quand on doit négocier avec la Commission ou on négocie avec une DG, une unité des DG tout entière, quand on a les États membres avec les administrations énormes, ça fait pas beaucoup. Alors, c'est comme ça que la participation des lobbyistes devient bienvenue. Par exemple, on reçoit la position d'un autre groupe politique ou la proposition du Conseil dans une négociation de trilogue. Qu'est-ce qu'on fait? On leur va directement à un lobbyiste amicaux, proche, parce que nous, on a que des personnes à regarder un texte de 1000 pages, et alors on a besoin de plus de gens. Mais pour récompenser ce travail gratuit qui nous est offert, on adopte des positions qui sont plutôt proches. Alors ça, c'est un premier niveau d'échange, tout à fait légal, tout à fait, voilà, il n'y a pas de corruption là-bas, mais ça donne lieu à une culture de travail qui s'habitue à cette donnant-donnant. Alors dans un deuxième niveau, ça peut aller dans des invitations au voyage, des invitations de conférences, ça peut aussi aller dans des propositions d'emploi pour ses assistants dans l'avenir, pour ses membres de famille, voire pour lui-même, parce qu'il y a beaucoup de députés aussi qui font du revolving doors avec les intérêts économiques. Et dans un troisième stade, ça peut amener à la corruption complète qu'on a vu dans le cas de ma compatriote Eva Kaili, qui a été où on a trouvé des valises avec du cash dans son appartement. C'était un cas particulier parce que c'était les lobbies dans l'État tiers de Qatar, ou peut-être de plusieurs États tiers, parce qu'il y a d'autres États apparemment qui sont même dans cette histoire. Alors c'était pas les lobbies des grandes sociétés, mais je pense que c'est la même culture. Eva Kaili était vraiment habituée à être invitée dans des conférences, dans des voyages. Elle était vraiment la dedans pour plusieurs années. Alors apparemment, à un moment donné, elle a dit pourquoi pas aussi une valise de cash. Et ça montre aussi, ça donne l'image que si on se balade avec une valise de cash, on se croit quelque part approchable. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment s'attaquer à cette culture des donnants de vente. Et un moyen de faire ça, ce serait de renforcer. Il y a un service public de recherche du Parlement européen, mais il n'a pas beaucoup de staff et aussi il n'a pas la compétence de proposer du texte législatif, de proposer du texte d'amendement, de proposer des rapports, un draft des rapports. Si on donne si on renforce ces services publics, alors on va rendre les députés moins dépendants aux influences extérieures.
Avant de venir à ce qu'on peut faire pour mieux réguler le lobbying à Bruxelles. Bruxelles. Jean, est-ce qu'on doit comprendre de ce qui a été dit que l'expertise des lobbies confisque un peu la politique, puisqu'ils interviennent très en amont, ils peuvent dire à la Commission, nous on connaît très bien ce dossier, on sait très bien comment fonctionne ce marché, écoutez-nous, nous sommes la voix de la raison et nous sommes les parties prenantes. Et on voit aussi, bah, pour les députés c'est la même chose, ils n'ont pas nécessairement les moyens de connaître le fond de tous les domaines. Est-ce que ça veut dire que bah, voilà, c'est un peu confisqué, que la décision politique est très encadrée?
Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais ils ont sûrement un pouvoir très important. Dire qu'ils avaient confisqué le pouvoir politique, ça voudrait quand même aller jusqu'à dire que la Commission européenne a perdu complètement son autonomie, ce qui n'est pas le cas quand même. Elle peut quand même proposer des textes, elle peut quand même faire des marges d'autonomie. Après, ce qui est vrai, c'est que très rapidement, quand on arrive à écrire, à rédiger, à préparer le texte, elle est très rapidement prisonnière de l'expertise des lobbies. Parce qu'en effet, ceux-là ont l'expertise, et donc une fois qu'on a décidé qu'il fallait la finance, décision politique, on arrive très souvent avec qu'est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce qu'on dit dans la finance exactement, comment ça marche, il y a 50 questions techniques. Et la réponse à ces questions techniques, en fait, aura un enjeu, enfin, c'est un enjeu économique d'abord pour les acteurs de la finance qui sont régulés, par exemple. J'aime bien la finance comme exemple, mais il y a pas d'autre exemple qu'on peut utiliser. Et donc, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un risque de capture réglementaire. C'est moi qui le dis, c'est l'OCDE, et qui dit que le problème du lobbying, c'est quand on arrive au point où les régulés ont une expertise au moins aussi importante, voire plus que les régulateurs, et bien les régulateurs sont un peu prisonniers. Ça veut dire qu'ils vont en effet demander des avis, recevoir des avis, mais qu'ils auront beaucoup de mal à se libérer de l'avis qu'on va leur donner. Et donc si on prend l'exemple de la finance, hein, mais ça peut être un autre exemple, si les banques disent écoutez, si vous régulez ça, vous allez tuer notre économie et tuer l'économie en général, ben, ça peut être compliqué pour la Commission européenne de dire bah, bon, parce que c'est technique et c'est compliqué. Après, une fois qu'on a dit ceci, bon, la Commission européenne est quand même consciente du problème, heureusement. Elle a déjà mis en place pas mal de mécanismes pour essayer de s'en sortir. Ça veut dire qu'elle a des méthodes internes, quand elle prépare un texte, pour pouvoir proactivement aller consulter d'autres personnes, donc pour ne pas être questionné d'un seul lobby, d'une seule entreprise. Elle a des méthodes pour trouver d'autres interlocuteurs, d'autres points de vue, pour des études, passer par des think tanks, des universités, elle essaie toujours de remettre en contexte, mais elle est au courant que l'avis qu'on lui donne est intéressé. Elle finance beaucoup les ONG, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ONG environnementales, transparentes, dans les droits de
l'homme. Pourquoi est-ce qu'elle finance les ONG?
Pour avoir un contrepoids.
Mais pourquoi est-ce nécessaire?
Parce que sinon, vous manquez de points d'appui pour une expertise autre. Pour prendre l'exemple de la finance, par exemple, voilà, encore une fois, c'est seulement un exemple, il n'y a pas que la finance dans la vie. Mais la finance, quand même très très puissante, ont beaucoup d'argent, ont beaucoup de moyens, et connaissent très bien le domaine de la finance. Et donc la Commission européenne a besoin d'une phase, d'un avis un peu différent. Et donc elle a beaucoup financé, une ONG qui s'appelle Finance Coach, par exemple, qui a été créée après la crise financière, qui emploie des personnes qui avaient besoin de la finance, qui a aussi beaucoup d'expertise, et donc en gros, une grande partie du budget est donnée par la Commission européenne, et ça veut faire vivre un centre d'expertise et de connaissances qui pourra faire contrepoids au lobby de la finance quand il y aura un débat sur un texte précis. Dans l'environnement, c'est beaucoup pareil. Forcément, il y a beaucoup de lobbies privés très intéressés par les questions environnementales, que ce soit le lobby des voitures, des avions, des émissions industrielles, tout ce qui pollue. Et donc en face, beaucoup d'ONG qui se travaillent dans de la finance reçoivent des financements de l'Union européenne. Donc il y a un travail de contrepoids.
Pouvoir mener le travail de contrepoids.
Voilà. Et après, il y a un sujet qui est lié, qui est celui de la régulation en effet. C'est que la régulation, la transparence, c'est très très imparfaite. Et donc en effet, à la fin, le lobbying va être une activité nécessaire quand même pour construire des lois équilibrées, pour avoir l'expertise qu'il faut pour construire des lois. Mais tout ce qui est de la régulation, la transparence reste à mon sens très très imparfait.
Mais ça, l'Union européenne, elle travaille, c'est progressif. On voit bien qu'ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose à faire dans le domaine de la transparence des lobbies. Donc il y a un registre de transparence où doit s'inscrire le lobbyiste. On sait qu'à la Commission européenne, les commissaires européens, les membres de leur cabinet, les hauts fonctionnaires de la direction générale doivent indiquer avec qui ils ont eu des rendez-vous. Au Parlement européen, les rapporteurs, les présidents de commission doivent aussi indiquer, mais néanmoins, ça reste incomplet. Alors, on ne va pas développer, c'est un sujet en soi, mais est-ce qu'il y a moyen d'identifier quelques mesures qui seraient vraiment nécessaires de mettre en place assez rapidement pour améliorer la transparence du lobbying auprès des institutions européennes?
Oui, Olivier, permettez-moi d'insister un peu sur les besoins de telles mesures, et après je vais citer quelques mesures. Comme tu as dit au départ du des bases, je suis consultant pour une boîte qui aide les ONG à faire du lobbying. Alors hier encore, j'étais parfois en fait des formations aux associations, aux ONG, pour comment s'y prendre. Et par exemple, hier, j'étais à Amsterdam, j'ai donné une formation, on était obligé de dire, bon, dans 8 sur 10 cas, nous allons perdre. Alors nous allons organiser le mieux possible, mais en sachant que dans la plupart des points, on va perdre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de changer, de mettre en place des mesures pour changer la situation. Parce que jusque là, et c'est depuis les années 80, je dirais, l'intégration européenne est vraiment menée par les grands intérêts économiques. En commençant
là, parce que c'est un marché.
Parce que c'est un marché, mais déjà le concept de faire le marché unique sans faire l'harmonisation sociale, c'était un concept qui venait de la 48 sociétés industrielles les plus puissantes de l'Europe, l'automobile, enfin plein de secteurs. Et en fait, c'est seulement quand il y a des choses, des événements, ou alors des découvertes scientifiques sur la consommabilité de certains produits, ou alors la crise économique que Jean a mentionné plusieurs fois. Moi, j'ai fait ma thèse exactement sur ce sujet-là. Pourquoi la transparence des transactions financières n'a pas augmenté après l'expérience de la crise financière de 2008. Alors on a eu une révision législative qui a pris 9 ans, mais que les banques, en ces moments-là, ils ne pouvaient pas dire « non, on n'a pas besoin de plus de transparence ». C'était politiquement impossible, parce qu'on avait des gens dans la rue qui manifestaient contre les banques, en grande partie, parce qu'il y avait cet échec monumental des banques, et on est devant une nouvelle, peut-être, mais on voit qu'il y a certains problèmes en 2023 au niveau des banques. Mais après, petit à petit, ils ont su, et malgré la fondation de Finance Works, ils ont su détricoter cette réforme et faire en sorte qu'elle n'amène aucune amélioration concrète. Aussi, aujourd'hui, on a les données scientifiques qui montrent que les pesticides, ce n'est pas un ingrédient de pesticides comme le glyphosate et cancérogène, mais pourtant, le Syngenta, les grandes industries, de ce secteur-là arrive à toujours décrocher de l'Union européenne une autorisation nouvelle de la glyphosate. Pour le moment, on a un an supplémentaire et dans la fin de cette année, on saura s'il y aura une réautorisation pour 5 ans. Alors voilà, on a en fait les organisations qui représentent la majorité de la population, telles que les syndicats, le plus grand intérêt en termes d'adhérents directs quand même, c'est la Confédération européenne des syndicats qui sont constamment en marge et qui décroche qui est de victoire complètement, qui améliore un peu certains aspects des choses, qui arrive à mettre certaines choses dans l'agenda, mais qui n'émule pas le G. Je pense que c'est grand temps d'échanger ça et d'assurer une représentation plus équitable des citoyens. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation où tout le monde comprend que les élections, ce n'est pas suffisant comme mécanisme des représentations, et surtout au niveau européen, où le Parlement européen est le plus faible des trois institutions. Alors on doit représenter aussi d'autres groupes que les grandes entreprises dans l'expertise scientifique, dans les consultations, dans les tout impact dans toutes ces choses. Et en fait, après les 4 années, on a, comme tu l'as dit, on a beaucoup de propositions de réformes, mais on est beaucoup centré sur la transparence. Et c'est bien, il faut plus de transparence, il faut que tous les députés, c'est pas seulement les rapporteurs, soient obligés de déclarer les réunions. Et il faut qu'on change plus sur le patrimoine. Madame Cailly avait acheté une trentaine de maisons l'année dernière. Et si on aurait des informations sur le patrimoine, on aurait compris qu'il y a quelque chose cloche, et peut-être que certainement qu'il y a des services secrets ne seraient pas nécessaires. Mais ce n'est pas que la transparence. La transparence va donner beaucoup plus de outils aux journalistes d'analyser des choses et de présenter des choses. Mais je pense qu'il faut des réformes plus structurelles. Et c'est ça le quota qui est brièvement mentionné. Alors,
des quotas de différents types de lobby.
Exactement. Parce que dans les groupes d'intérêt, on ne peut pas avoir plus que 30%, plus que 50%, comme c'est le cas très souvent des entreprises, qu'il faut avoir un certain pourcentage des syndicats, un certain pourcentage des organisations des consommateurs, un certain pourcentage d'universitaires, qui sont très marginales dans l'expertise. C'est ironique, on parle d'expertise, mais on a affaire avec des lobbyistes et non pas avec des chercheurs ou des universitaires. Alors ça, c'est la première chose. Et une autre chose, ça serait le fait de renforcer l'expertise in-house, l'expertise de la Commission, l'expertise du Parlement, des données.
Moyens,
c'est ça. puissions d'avoir nos propres données, de pouvoir vérifier les données et de ne pas être dépendant aux données scientifiques de l'Église.
Jean, si ça c'est un point des choses qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qui est nécessaire? Il y a notamment, on parle dans le livre de ce phénomène européen, pas seulement européen, mais des porte-battants, c'est-à-dire des gens qui rentrent dans l'institution, vont travailler pour l'entreprise, reviennent dans l'institution.
Oui, ça c'est un sujet aussi. En gros, c'est des portes tournantes, les revolutors en anglais. Donc c'est le fait pour quelqu'un qui a été fonctionnaire ou élu, à la fin de son mandat ou sa carrière, de partir bosser dans le privé souvent, pour un consultant, pour autre chose. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui a une expertise très forte de comment fonctionne le Parlement intérieur, la Commission intérieure, qui a des contacts aussi, ses anciens collègues, va pouvoir utiliser cette expertise, ses contacts, pour un but de lobbying. C'est très très peu régulé dans l'Union européenne. Que du Parlement européen, un élu, un député européen, peut juste après son mandat aller travailler dans le privé, n'importe où. Il n'y a aucun type de contrôle, de restriction, ni rien. Et puis surtout, comme disait Lorios, même pendant son mandat, c'est possible d'avoir en parallèle, de travailler en parallèle comme consultant, comme avocat. Il faut seulement le déclarer. Et c'est tout. Il n'y a pas de réel contrôle effectué au Parlement européen sur les conflits d'intérêts. Donc ça veut dire que si vous êtes rapporteur sur un législatif sur les bus et que vous êtes actionnaire d'une boîte de bus en parallèle, il n'y a pas de contrôle là-dessus. En général, c'est la presse qui le remarque et ça fait un scandale et on arrête. Mais voilà quoi. Et à la Commission européenne, c'est assez peu régulé aussi. En gros, la Commission européenne a le droit d'interdire, un fonctionnaire qui veut passer dans le privé doit demander à la Commission européenne. La Commission européenne peut interdire. De façon générale, elle le fait très 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 peu. En fait, il semble qu'elle ait très peur d'être poursuivie en justice par quelqu'un, par un ex-fonctionnaire qui penserait que l'interdiction était abusive. Donc elle ose assez peu le faire, et donc elle peut aussi mettre des limites à ce genre de choses, mais elle en met très très peu. En général, elle demande juste à quelqu'un qui part bosser dans le privé de ne pas contacter ses anciens collègues pour faire du lobbying. Donc en gros, un exemple réel, si vous travaillez c'est en charge des télécommunications au sein de la Commission européenne et que vous allez bosser pour Vodafone, vous ne pouvez pas appeler vos ex-collègues, ceux qui étaient vos collègues il y a quelques jours avant, pour faire du lobbying. Le sujet, c'est qu'il y a très très peu de contrôle par rapport à ça. Ça veut dire que la Commission européenne a admis avoir une approche basée sur la confiance. Ça veut dire qu'elle fait confiance pour l'ex-fonctionnaire pour respecter l'obligation, pour le lobby de l'ex-fonctionnaire de respecter l'obligation et pour les ex-collègues aussi de s'aligner. Dans les faits, il y a très peu de contrôle de ça. Et donc, c'est déjà arrivé que la presse trouve des cas où des gens rencontrent beaucoup leur ex-collègue sont petits pour parler de faire des lobbies quand même. Donc il y a très très peu de régulation là-dessus. C'est un peu un angle mort. En général, de façon générale, les institutions européennes ont beaucoup travaillé sur le lobbying avec la transparence. Ça veut dire, ils ont dit, notre principale affaire pour rendre l'activité plus régulée, c'est en effet de créer ce registre. Il y a un registre qui existe, où on retrouve les 12 000 lobbies actifs pour les institutions européennes. L'inscription n'est pas obligatoire. Je sais que c'est présenté par un registre obligatoire par la Commission européenne, c'est pas obligatoire du tout en fait.
Il faut être inscrit pour parfois avoir accès à certaines personnes.
C'est ça. Ce qui n'est pas d'obligation stricte, mais en gros, pour rencontrer certains commissaires, enfin les commissaires européens, leur cabinet, il faut être inscrit. Le problème, c'est comme je l'explique au début, pour un lobby, c'est plus intéressant de voir un fonctionnaire beaucoup plus à la hiérarchie qu'un commissaire européen. Parce que le commissaire européen donne une certaine politique, mais c'est pas lui qui va décider, à la fin, c'est pas lui qui décide de faire l'intérêt mutuellement, une directive, comment procéder exactement. La personne qui va rédiger la structure du texte et donc savoir exactement qui est couvert, comment on est couvert, la nature des obligations, c'est un fonctionnaire en dessous. Et eux, il n'y a aucune sorte de transparence, d'obligation par rapport à eux. Donc c'est beaucoup ça qui a été fait. Voilà, la Commission européenne a aussi dit va publier certains des rendez-vous. Donc un commissaire européen publie ses rendez-vous avec le lobbyiste, mais seulement les commissaires européens, pas les gens en dessous qui écrivent le droit.
Des fois ils oublient.
Et des fois ils oublient aussi, c'est un autre sujet, c'est qu'en effet très souvent ils oublient. Et au Parlement européen, selon les rapporteurs de la commission parlementaire, il y a aussi beaucoup d'autres députés qui ont beaucoup de poids. Dans chaque commission parlementaire, il y a des coordinateurs, donc des gens que leur groupe politique mandate pour un peu coordonner et diriger le travail de leur groupe politique dans la commission parlementaire, donc ils ont un poids énorme, les lobbyistes le savent bien, mais ces gens-là ont une sorte de déclaration. Le secrétariat général du Parlement européen a aussi des rapports assez fournis, le lobbyiste assez dense, aucune publication, d'inscription, de quoi que ce soit. Hein. Et puis au-delà de ça, il y a aussi un sujet plus général qui est que très souvent, le sujet n'est pas pris au sérieux par les fonctionnaires européens et les parlementaires européens. Et donc, tu disais juste avant qu'il y a des commissaires européens qui oublient de faire leur rendez-vous. Très souvent, il y a aussi des députés européens qui oublient, qui omettent, quelquefois c'est voulu, quelquefois c'est juste que c'est pas le discours, c'est pas le courant, on a beaucoup plus tard.
Bon, on a peu de temps, mais un petit peu de temps quand même pour les questions.